Et pour une première en ce début d'année, on retrouve Olivier Beauregard pour Parler Sport. Olivier, bonjour!
Salut!
Et évidemment, il faut revenir parce qu'avant les fêtes, tu nous disais, c'est sûr, je vais regarder le championnat mondial de hockey junior, je vais être attentif, c'est une tradition pour toi dans le temps des fêtes. Est-ce que tu as été aussi déçu que les autres Canadiens en regardant notre équipe aller?
Hey, écoute, déçu, c'est même pas le mot, là. Je te dirais même qu'à un certain moment pendant le championnat, j'ai comme perdu de l'intérêt.
OK.
Parce qu'on dirait que la déroute de l'équipe canadienne, là, je la voyais venir à 100 000 à l'heure. Puis, pas après le fameux match là, contre la Lettonie où ça, ils l'ont perdu, puis ça a été un peu le bouton panique. Mais on sentait que depuis le début du tournoi, le Canada n'était pas nécessairement l'équipe à laquelle on s'attendait. Disons ça comme ça. On s'attendait pas à une équipe dominante. On voyait un peu des performances en demi-tente, des matchs en deux tons. Tu sais, c'était vraiment pas du hockey inspirant pour les partisans parce qu'on se disait, écoute, si c'est ça, l'échantillon était maigre là, dans les calendriers préparatoires, mais si c'est ça l'équipe qu'on va avoir, la route risque d'être ardue et pénible. Puis c'est exactement ça qui est arrivé, une déroute du Canada tout simplement. On s'incline, on n'est même pas dans la ronde des médailles pour une deuxième année consécutive, soit dit en passant, c'est la première fois de l'histoire du Mondial Junior que le Canada n'est pas dans la ronde des médailles pour deux années consécutives. Rappelez-vous, l'an passé aussi, ça avait été assez catastrophique. Mais cette année, même chose, et ça s'est passé encore une fois contre les Tchèques. Écoute, il n'y a pas vraiment de façon d'expliquer cette descente aux enfers de l'équipe canadienne, nul autre que, je pense que le Jello n'a pas pogné. Le Jello n'a pas pogné parce que quand tu regardes cette équipe-là, on a bâti une équipe du côté du Canada qui, pas nécessairement avec les meilleurs joueurs disponibles, mais plus on a essayé de bâtir une équipe de hockey, c'est-à-dire avec ses forces et ses faiblesses, mais surtout en essayant de, si tu veux, colmater des brèches, c'est-à-dire de faire des trios qui vont avoir des missions bien précises. Et malheureusement, ben ces trios-là ou ces duos de défenseurs-là n'ont pas été capables de remplir le mandat. La seule bonne performance qu'on a eue, c'est vraiment le gardien de but d'équipe canadienne qui a rien à se reprocher pendant le tournoi. Mais le reste, là, ça fait défaut. Je peux même parler peut-être d'en arrière du banc. Moi, j'ai trouvé que Dave Cameron, l'entraîneur-chef, a vraiment, vraiment manqué le bateau cette année. J'ai trouvé que dès les premiers signes, dès les premiers drapeaux rouges, j'ai jamais été capable de essayer de trouver rapidement une solution. On dirait que c'était tout le temps les mêmes erreurs. Tu sais, ce qu'on a entendu le plus pendant le tournoi, Sébastien, là, puis pour les gens qui nous écoutent, qui ont suivi ça, c'était les pénalités de l'équipe canadienne. On disait c'est une équipe punie sans bon sens. On est toujours en infériorité numérique. Puis c'est vrai, là, c'était la deuxième équipe la plus punie du Mondial Junior. Mais c'est match après match. Et la raison pour laquelle on était punis comme ça, Sébastien, là, c'est pas juste une question d'indiscipline. C'est parce que, crime, on était tout le temps dans le trouble. On était obligé de tricher. On était obligé de faire des situations qui allaient entraîner une pénalité pour essayer d'éviter un but. Alors, ça a été ça tout au long du périple du Canada. Écoute, il n'y a pas eu un grand match. Contre les États-Unis, on s'attendait à un duel fascinant, tu sais, parce qu'on se disait les deux équipes doivent se battre justement pour accéder à la ronde des médailles. Du côté des États-Unis, on savait déjà qu'ils étaient en bonne position avec l'équipe qu'ils avaient entre les mains. Mais du côté canadien, on savait que si on l'échappait contre les États-Unis, puis il fallait jouer un match pour passer à la prochaine étape, ben ça allait être compliqué, puis ça risquait de drôlement embêter le tournoi, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Bref, ça m'amène à me poser plusieurs questions sur la façon dont le Canada va devoir se regarder dans le miroir pour bâtir une prochaine équipe, parce que l'an prochain au Minnesota, ce sera pas plus facile. Ça fait déjà plusieurs années qu'on sent que le programme canadien a de la difficulté à garder sa dominance plutôt que le Canada a eu pendant tant d'années. On a des bons joueurs au Canada, là, on va pas se le cacher, c'est notre sport national.
C'est pas le bassin de joueurs le problème, ce que je comprends. C'est au-delà de ça, parce que tu dis on a des bons joueurs, fait qu'il y a moyen d'avoir une équipe bonne et qui pourrait performer. C'est ailleurs le problème?
Ben moi je pense que oui. Je pense que c'est dans les hautes instances de l'équipe canadienne, parce qu'à chaque année, ben on se retrouve avec. Puis là, je ne veux pas partir un débat, là, mais à chaque année, on se retrouve avec deux joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, 19 joueurs de l'Ontario, puis 12 joueurs de l'équipe, de la Ligue de l'Ouest qui s'amènent pour le camp de l'équipe canadienne junior. Puis si on a deux joueurs qui sont retenus, proviennent de la Ligue junior majeure du Québec, bien, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, je pense qu'il va falloir vraiment regarder comment on veut bâtir une équipe, qui doit bâtir les équipes, parce que moi, je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, tu peux bien faire un château de cartes, Sébastien, si ta fondation n'est pas solide, ça va tomber. Ben, c'est un peu le même principe avec l'équipe canadienne. Tu peux te bâtir une équipe, mais si au final, les gens qui prennent les décisions ne les font pas correctement puis que c'est pas solide, éventuellement, t'es voué à l'échec. Puis c'est exactement ça qui est arrivé avec l'équipe canadienne. Puis ça fait 2 ans que ça arrive. Ça fait 2 ans qu'on se pose des questions à savoir où est-ce qu'on s'en va en tant que programme canadien. Ben là, je pense qu'on est en train de justement... le bouton panique est déjà enfoncé. Là, je pense que là, on est en train de dire, OK, qu'est-ce qu'il faut chambouler? Puis j'espère que le comité canadien va décider de faire de grands changements au sein de Hockey Canada pour justement changer un peu la dynamique, peut-être se réinventer également, puis arriver peut-être dans la réalité d'aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que tu sais, là, il y a des... Là, je vais essayer d'être poli, là, mais il y a des têtes blanches dirigeantes d'Hockey Canada là, qui n'ont pas évolué des années 90, puis on fait encore les mêmes décisions comme si le sport était le même qu'en 1990. C'est pas ça, ça a changé le hockey. Maintenant, pouvons-nous nous tourner vers des gens compétents, des gens qui évoluent là-dedans, qui sont là tous les jours, mais qui font aussi partie de la nouvelle génération? Ça serait pas mal intéressant, parce que je pense qu'on peut prendre des notes sur ce que la Tchéquie fait depuis quelques années. Mm-hmm. On peut prendre des notes sur le système américain également, qui fait très bien. Mais il y a les Suisses, il y a les Lettons qui ont été l'histoire du Mondial Junior cette année. Il y a des équipes qui vraiment là sont en train de montrer qu'ils sont capables eux aussi de compétitionner. Puis si le Canada ne suit pas la parade, moi je vois pas comment cette équipe-là, l'année prochaine, peut manquer la ronde des médailles. Puis je vais dire bien que ça, je vois pas comment cette équipe-là, l'année prochaine, ne peut pas avoir la médaille d'or entre les mains à la fin du tournoi. Va vraiment falloir que le Canada trouve une façon de justement de se réinventer.
Ça leur fait un gros début d'année, mais ils n'auront pas le choix de s'y pencher. Parlons maintenant du Canadien.
La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un an pour le faire.
Ben, hein? C'est ça. Quand même. Parlons du point de presse du Canadien, bilan de mi-saison. Là, tu voulais revenir sur certains points là, qui ont retenu ton attention.
Oui, chapeau d'abord à l'équipe des communications du Canadien de Montréal. Je veux dire, il n'y a pas un meilleur moment pour faire un bilan de mi-saison quand ton équipe vient de revenir d'un voyage sur la route, qui connaissent une montée fulgurante au niveau du classement, tellement qu'ils sont présentement l'une des équipes repêchées pour les séries éliminatoires si les séries commençaient aujourd'hui. Mm-hmm. Ça, là, c'est de la relation publique à son meilleur. Chantal Maccabé a fait un travail exceptionnel avec son équipe aux communications de décider de faire un bilan de mi-saison maintenant, parce que là, ça allait tourner vers le positif. Écoute, le voyage pendant le temps des fêtes du Canadien a été tout simplement phénoménal. On n'a pas vu Kent Hughes pendant les déboires du Canadien en début de mi-saison. Il n'est jamais sorti des médias. Jeff Gorton est allé une fois, mais le directeur général, jamais. Et là, quand ça va bien, c'est le temps de sortir et on le fait de la bonne façon. Il y a plusieurs choses là, qui ont retenu mon attention. Évidemment, il y a le rendement de l'équipe en général. On semble avoir trouvé nos repères. L'avenue du défenseur Alex Carrier, j'en ai parlé, mais pour moi, c'est un défenseur qui amène une certaine stabilité qui rend Caden Goulet meilleur avec qui il évolue. Ça, c'était un point positif. Le rendement de Lane Hutson, un autre défenseur, un jeune prodige qui fait de l'excellent travail. On parle même de lui comme l'un des meilleurs espoirs pour la Coupe Calder, pas pour la Coupe, mais pour le Trophée Calder qui est remis à la recrue par excellence de la Ligue nationale cette année. Donc, tu sais, c'était très positif, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'interrogations chez le Canadien, c'est-à-dire, tu sais, Juraj Slafkovský, pas facile. C'est pas facile. Puis je sais pas comment, dans son cas, on va être patient parce que lui, il y a un gros contrat qui commence la saison prochaine. Son contrat recrue va se terminer et on lui a déjà donné un très, très gros contrat. Malheureusement, les performances suivent pas. Donc lui, ça reste un dossier qui, pour moi, et Kent Hughes a été prudent à ce niveau-là, mais c'est un dossier qui reste pour moi peut-être à régler, là, savoir qu'est-ce qui va se passer avec Juraj Slafkovský. Je suis pas en train de vous dire qu'il va être échangé ou relégué ou peu importe. Mais je pense que c'est un joueur qui cherche et qui va devoir produire parce que l'an prochain, si tu donnes un contrat autant lourd à un joueur qui t'en amène pas autant qu'il est supposé, à un moment donné, en tant qu'organisation, ça va te rattraper. On a parlé du dossier de Demidov également, ce joueur qui évolue en Russie, le plus récent choix de première ronde du Canadien de Montréal. Écoute, tout le monde critiquait le fait que Kent Hughes est allé le voir en Russie. On a critiqué l'organisation du Canadien. Lui, il s'est défendu en disant « Ben moi, je suis allé le voir parce que je veux savoir c'est quoi ses intentions? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je veux voir aussi comment il joue en vrai. » Et c'est exactement ça qu'ils ont fait. Évidemment que lui, là, ça pourrait être un joyau que le Canadien a à l'étranger. Il me garde une réserve. Okay. Là, on va pas mettre les patins dans la Ligue nationale. Là. Mais en ce moment, ce qu'il fait en KHL, c'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'il peut ramener ce jeu-là en Amérique du Nord? Ben, espérons-le. Est-ce qu'il va se rendre en Amérique du Nord? Espérons-le aussi. Mais l'autre chose que j'ai à dire, c'est que, tu sais, dans le cas de Demidov, C'est un dossier qui, on le sent, là, qui est encore fragile, mais qui reste prioritaire pour le Canadien, c'est-à-dire que on se déplace en Russie, on amène l'état-major là-bas, on va manger avec lui. On est en opération séduction. Il va falloir lui donner un contrat qui va être alléchant pour qu'il vienne en Amérique du Nord. Mais chose certaine, je pense que le Canadien attend justement de trouver une façon de pouvoir lui attribuer un contrat qui va valoir la peine. Mais une chose qui est sûre, ton capitaine, ton leader de cette formation-là, Nick Suzuki, est payé 8 millions quelques par saison, là. Ben c'est sûr que Demidov ne doit pas s'attendre à avoir plus que ça, parce que là, ce serait un peu bizarre ce qui pourrait se passer au sein du vestiaire du Canadien. Puis le dernier dossier pour moi, Sébastien, qui a retenu mon attention, puis peut-être qu'il est banal pour certains, mais c'est le dossier de Jake Evans. Jake Evans, à 28 ans, il est en train de connaître la meilleure saison de sa carrière. Il rend de précieux services aux Canadiens. Mais le problème, c'est qu'il écoule sa dernière année de contrat. Il y a des équipes qui s'intéressent à lui, probablement pour la date butoir, là, qui va être aux alentours du 1er mars. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait du côté du Canadien avec Jake Evans? C'est sûr que tout le monde dit, ben, signons-le, puis ça se termine là. Sauf que Jake Evans, il est pas fou, là. Il sait très bien que s'il attend au marché des joueurs autonomes le 1er juillet prochain, il risque de signer des contrats pas mal plus alléchants qu'à Montréal. La simple et bonne raison que à Montréal, on va être dans des années où on doit signer, puis l'argent, ben, malheureusement, c'est pas lui qui va être le premier à être payé à sa juste valeur. Et lui, il le sait très bien, alors qu'il pourrait aller chercher plus ailleurs. Il y a déjà les Devils du New Jersey qui lui auraient démontré un certain intérêt envers Jake Evans, selon okay. Pierre Lebrun. Si c'est le cas, ben, j'espère qu'on va attendre du côté de Kent Hughes avant de le marchander. Peut-être qu'on devrait prendre le temps de rencontrer le joueur et savoir c'est quoi ses intentions. Tu veux-tu aller au plus offrant ou tu veux de la stabilité à Montréal? Ben, ce sera à suivre. Mais chose certaine, lui, il est en train de dire à tout le monde, moi, je mérite d'être payé. Puis ça sera pas un dossier facile pour Kent Hughes. Parce que, tu sais, dans une équipe championne, un Jake Evans sur une quatrième ligne, là, c'est un très, très, très bon luxe. Moi, je pense que c'est exactement ce que le Canadien aimerait avoir. Mais est-ce qu'on va être capable de se le payer? Ben là, ça va dépendre combien Lane va te coûter, puis combien Demidov va te coûter éventuellement également.
Puis sinon, ben, en terminant, Olivier, dans moins d'un an, il y aura des dizaines de milliers de personnes en short puis en gougoune sous 25 degrés à regarder un match extérieur de la Ligue nationale de hockey en Floride. Ça n'a aucun bon sens.
C'est pas le 1er avril, les amis. Non, là. C'est vrai ce qu'on vous dit. Je suis le premier qui est un peu déçu de cette nouvelle-là. La Ligue nationale a annoncé ça en grande pompe en disant il va y avoir deux matchs extérieurs l'an prochain dans la Ligue nationale, dans le temps des fêtes, et ça va se passer du côté de la Floride. On vise Sunrise, on parle du domicile des Buccaneers, de Tampa Bay également, à Tampa Bay, et des Dolphins de Miami pour disputer des matchs hivernales.
Mais ils n'ont pas compris que c'est un sport d'hiver qui joue, il y a des gens qui...
Non, mais tu sais, voyons. Puis au moment où on se parle, Sébastien, là, je ne sais pas si c'est des amis en Floride de la parenté, mais c'est presque 30 degrés à tous les jours.
Ben oui.
Écoute, je ne sais pas comment la Ligue nationale va réussir à maintenir une patinoire extérieure dans des températures comme ça. Le plus chaud qu'on a fait, si je ne me trompe pas, c'était à 18 degrés.
Oui, il me semble que oui.
C'est ça, il y a quelques années. Mais reste que, écoute... Moi, je comprends pas la Ligue nationale. En fait, je comprends ce que la Ligue nationale fait. C'est pas vrai que je la comprends pas. Je comprends très bien. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'elle fait? Pas du tout.
Non, c'est ça.
T'as des marchés qui mériteraient de recevoir des matchs extérieurs, des marchés qui sont complètement ignorés année après année. Tu sais, pourquoi le Canadien de Montréal n'a jamais eu un match extérieur? Parlez-moi pas de l'emplacement, parlez-moi pas de manque de ressources. À Montréal, ils sont capables de créer un événement d'envergure, puis ça va se vendre partout. Je pense qu'il y a un manque d'intérêt de la Ligue nationale. Mm-hmm. Pourquoi on va aller en Floride? Pourquoi on va aller frapper la Floride? Ça fait 2 années, 4 années même que la Coupe Stanley s'en va dans cet état-là. On est hot, on est big du côté de la Ligue nationale en Floride présentement. C'est sûr que c'est un marché qu'on va viser puis qu'on va cibler. Mais pour moi, c'est terrible.
Faites un autre événement, faites d'autres choses. Il y a moyen de moyenner, mais pas un match extérieur. Voyons donc.
Ben exactement, parce que ça a pas de bon sens, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça sort de l'ordinaire, c'est correct qu'on veut sortir des sentiers battus, mais ça frôle le ridicule. Pourquoi il y a des marchés, comme je l'avais enseigné un peu plus tôt, qui ont pas ces événements-là à Vancouver? Quand est-ce qu'on a parlé la dernière fois d'une classique hivernale à Vancouver? Ça arrive pas. En Amérique du Nord, c'est toujours les États-Unis, le sud des États-Unis, on vise des endroits comme Chicago année après année, New York. Mais on pense jamais à nos marchés canadiens. Je trouve ça, honnêtement, je dirais quasiment que c'est un doigt d'honneur de la Ligue nationale envers nos marchés canadiens, encore une fois. Puis cette annonce-là, on le fait en grande pompe. Gary Bettman est bien content, mais je te dirais que les vrais amateurs, là, ceux qui sont un peu plus en haut, là, ben eux autres, là, ils commencent à être tannés un petit peu d'être ignorés puis de se dire, hey, vous autres, on va vous faire une classique héritage au 4-5e, vous allez être bien contents. De toute façon, ça va être sold out avant le temps. Vous allez tous être là, puis nous autres, on va gagner notre pari avec le marché américain.
Ah, la LNH! Des exactement. Fois, j'aimerais ça être une coupe de réunion. Olivier Beauregard, un grand merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
Absolument, bye-bye!